Nous prenons nos Bibles dans le livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 17. À partir du verset 1er. 1 Samuel 17, à partir du verset 1er. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azekah, à Éphèse d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Tébérintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 000 sicles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 6 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Nous lisons aussi le verset 24, juste le verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Nous connaissons tous plus ou moins cette histoire. C'est l'histoire des Philistins qui étaient en guerre contre les enfants d'Israël. Et parmi ces Philistins, il y avait un homme, un géant qu'on appelait Goliath. Et cet homme se mettait devant Israël et il menaçait à chaque fois. Et la Bible dit que ça a duré 40 jours où Goliath, les Philistins, affrontaient Israël et personne ne pouvait se mettre devant Goliath pour rivaliser. Et nous avons lu au verset 11, on nous dit que Saül et le peuple, lorsqu'ils entendaient les paroles de Goliath, ils étaient dans la crainte. Verset 24, on nous dit, à chaque fois qu'ils entendaient ces paroles, ils étaient dans la crainte, dans la peur. Et la peur, c'est un sentiment où on a l'impression qu'il y a une situation de danger. Et dans cette situation de danger, il y a deux possibilités. Soit on fuit, c'est la facilité, ou alors on affronte le danger. Et là, c'est un combat. Et Israël s'est retrouvé devant ces Philistins. Ils étaient dans la peur et ils étaient comme paralysés. Mais cette peur-là venait d'où? Cette peur, elle venait de la réalité qu'ils voyaient. Elle venait de ce qu'ils entendaient. Elle venait de toutes les menaces que cet homme, Goliath, disait à Israël contre Dieu. Et c'est ça qui nourrissait cette peur. Parfois, je pense qu'ils se motivaient entre eux en disant « Ben, allons-y, on va aller tous ensemble comme un seul homme. parce que ce n'était pas la première bataille, guerre d'Israël. Et au moment où il se décidait d'avancer, il voyait Goliath avancer, il reculait. Il se disait, ah non, ce n'est pas possible. Le thème de notre exhortation ce soir, c'est ne pas se laisser influencer par les réalités visibles. L'Ancien Testament, lorsque Dieu parle dans l'Ancien Testament, il parle au travers des guerres, il parle au travers de certaines réalités qu'Israël vivait. Et derrière toutes ces leçons-là, il y avait une victoire que Dieu donnait à Israël. Et aujourd'hui, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous comprenons que là, c'était physique. Nous, aujourd'hui, il y a aussi des situations qui sont des réalités. Parce que là, quand on parle, quand on lit, ce n'était pas une fable. Goliath a véritablement existé. Lorsque je lisais un peu pour comprendre qui était Goliath, on le décrit, et là, il est bien décrit, environ 2,90 m. Donc, disons 3 mètres. La cuirasse qu'il mettait pesait 56 kilos. Le bois dont on parle de sa lance, 10 kilos. Alors, imaginons lorsqu'on voit déjà un basketteur d'un mètre 90, même pas 2 mètres. C'est impressionnant. Les mains, tout est proportionnel. Les pieds, c'est impressionnant. Alors, imaginons quelqu'un qui est 2-3 fois comme les basketteurs de NBA. Et Israël vivait ça, c'était une réalité. Et en fonction de certaines réalités, l'homme s'adapte. Aujourd'hui, nous voyons, nous sommes en plein dedans avec l'état d'urgence. Je suivais le témoignage d'une personne qui a assisté, qui était présent lors des attentats du 11 novembre au Bataclan. Et il explique, il dit que ma vie a changé. Aujourd'hui, je n'arrive plus à supporter la foule. Lorsque j'entends un petit bruit, ça rappelle les détonations des armes qu'il a entendues autrefois. Donc, la vie de cette personne-là n'est plus la même. La personne vit dans la crainte. Pourquoi ? Parce qu'elle a vécu des situations, des événements qui ont changé sa façon d'être. Peut-être que la personne était joviale, elle était joyeuse, c'était un bon vivant, c'était un fêtard. Mais à cause des événements, la situation a changé. La personne ne supporte plus la foule. La personne vit dans l'angoisse, dans le stress, en se disant, peut-être que là où nous sommes rassemblés, il y a quelqu'un qui est mal intentionné. Et finalement, la personne ne vit plus. Et c'est ça que vivait Israël, imaginons-nous, pendant 40 jours. Donc, non seulement ils avaient peur, mais ils guettaient en se disant, mais est-ce qu'il vient vers nous ? Parce que nous n'allons pas vers lui. Est-ce que lui va nous attaquer ? Israël vivait dans cette peur-là. Ne nous laissons pas influencer par les réalités visibles. Il y a deux types de réalités dans ce monde dans lequel nous vivons. Les réalités que nous pouvons vivre, les réalités palpables. Ce que nos yeux, ce que nos oreilles entendent, ce que nos sens sentent, ce sont des réalités. Mais l'apôtre Paul nous parle, 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous allons comprendre cela. 2 Corinthiens 4. On peut commencer même à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternel. Voilà ce que Paul explique. Il dit qu'il y a des réalités. Lorsqu'il parle, pour ceux qui veulent lire, on peut commencer au verset premier. Il explique que sans cesse, il est livré à des tourments, à la persécution. Et il explique ça. Il dit, nous sommes comme des vases, mais on a un trésor. Mais en même temps, bien qu'on ait ce trésor-là, on souffre. il est en prison, il est parfois frappé, on se moque de lui, il est calomnié. Il dit, eh ben, il y a toutes ces réalités-là. Maintenant, si notre foi à nous est fondée sur les réalités visibles, alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben, Dieu m'a abandonné. Mais où est Dieu? Mais pourquoi il me laisse comme ça? Moi qui sers avec toute intégrité, moi qui suis juste, moi qui jeûne, moi qui fais ceci. Et lorsqu'on s'arrête aux réalités visibles, eh ben, on devient triste, on devient malheureux. On devient malheureux. Et là, il rajoute, il dit, c'est pourquoi nous, nous regardons aux choses qui sont invisibles, aux choses qui sont spirituelles. Il y a deux réalités, les réalités visibles et les réalités spirituelles. Les réalités visibles, c'est ce que tu peux voir, ce que ton oreille a entendu, ce que le médecin t'a dit, c'est écrit. Il t'a dit, eh ben, toi, eh ben, il te reste 10 jours à vivre. Ce sont des réalités palpables, visibles, réelles, entre guillemets. Le réaliste, c'est celui qui dépeint les choses telles qu'elles sont. Il dit, bon, le ciel, là, il est bleu. Il est bleu, c'est tout. On ne peut pas changer les choses. C'est comme ça. Mais l'apôtre Paul dit, nous, nous avons une autre loi qui nous régit. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous lisons cela. On tourne la page. 2 Corinthiens 5, 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit que si on s'en tient aux réalités visibles telles qu'elles sont, eh ben, on sera triste. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Devant un homme comme Goliath, il se disait, mais même si on doit y aller à 10, mais il suffit qu'ils tendent le bras, bah, nous sommes tous par terre. Mais est-ce que Dieu ne savait pas cette situation? Mais Dieu le savait. Dieu savait qu'il y avait Goliath. Dieu savait que le peuple d'Israël aurait peur. Dieu le savait. On se rappelle lorsque Dieu envoie les espions pour explorer le pays promis. Quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le pays effectivement est beau. Il coule le lait et le miel. Le séjour est très bon dans ce pays. Mais il y a un problème. C'est que dans ce pays-là, Dieu nous a caché quelque chose. Il y a des géants dans ce pays-là. Alors ils disent, bon, dans ce cas, nous, Moïse, on refuse d'aller. Josué et Caleb seuls ont accepté la mission de Dieu jusqu'au bout en disant, nous irons. Si Dieu nous a promis, il nous donnera cela. Ne nous laissons pas influencer par les réalités visibles. On en convient. Humainement, on se dit, mais comment les choses vont se dégager? Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens que nous sommes, parfois, nous vivons au gré des vagues, en fonction de l'actualité, en fonction de ce que j'ai entendu, en fonction de ce qu'on m'a dit, en fonction de ce que j'ai vu. Nous vivons comme ça. Il y a des gens qui ont des programmes de prière en fonction de situations. Le problème est grand, et ben il fait un programme proportionnel. Donc il va jeûner 2 jours. Le problème est encore plus grand, il va jeûner peut-être 1 semaine et en fonction de ça. Ou voilà, il va prier fort, il va crier en pensant que c'est en criant, c'est en faisant ça que les choses vont changer. Non. Ce n'est pas en établissant un programme comme ça. Et souvent, nous chrétiens, nous sommes comme ça. Mais c'est lié à notre chair. Nous sommes d'accord. Mais le but de notre exhortation de ce soir, c'est que le Seigneur nous délivre. Peut-être d'une mauvaise nouvelle qu'on a entendue, on se dit, mais comment Dieu va me délivrer de cette situation? Et cette nouvelle nous amène même à ne plus louer Dieu, à ne plus glorifier Dieu. Cette situation est là devant nous, comme Goliath. Et là, il y a même les raisonnements qui viennent te dire, mais toi, tu ne vois pas la situation. Tu veux chanter? Tu veux danser? Lisons ce que dit Saül à David. D'abord, ce que dit Eliab, le grand frère de David. Nous passons au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?»« Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, le grand frère de David, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit, comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Amen. Voilà ce que Saül dit. Saül, déjà lui-même, c'était un guerrier. Saül était grand. Saül était costaud. Le peuple a choisi Saül parce qu'il avait fait ses preuves physiquement. Saül était le choix du peuple à cause de son palmarès. Mais voilà qu'il entend parler David, il fait venir David. Il lui dit, mais qu'est-ce que j'entends ? Il lui dit, mais ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans la peur. Dieu va nous délivrer, il nous donnera la victoire. Alors Saül parle à David. C'est ça qu'on appelle la sagesse, n'est-ce pas ? La sagesse humaine, le bon sens. Mais mon fils, mais voyons. Ça, c'est ça la voix de la sagesse humaine. Mais toi, tu penses que, regarde, tous ceux qui sont passés avant toi, là, dans la famille, là, toi, tu es extraordinaire. Donc, c'est toi qui es différent. Il dit, mais cet homme-là, mais c'est un guerrier. Dès sa jeunesse, non seulement il est grand, il est fort, mais en plus, il sait se battre. Et comment tu dis que tu peux affronter cet homme-là ? C'est cela. Parfois, il y a des voix qui sont là pour te dire, non, tu n'y arriveras pas. Ce concours-là. Moi, j'ai essayé, tu as essayé, c'est ton problème. Moi, je vais essayer avec la grâce de Dieu. Voilà, je fais ce que je peux, Dieu fait sa part. Parfois, il y en a qui sont parfois même aigris, eux-mêmes qui donnent des conseils, mais lui-même, il a déjà perdu la foi. Qu'est-ce qu'il va te dire ? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup d'assistantes sociales, c'est une parenthèse. Beaucoup qui sont femmes seules, mais qu'est-ce qu'on veut qu'elles conseillent aux femmes ? Déjà avec un esprit fort de domination, donc elles sont très fortes pour obtenir les séparations de couples, elles sont fortes pour ça. Je ne généralise pas, bien sûr. Sachons vers qui nous tendons nos oreilles. Amen. Marie, lorsque le Seigneur lui parle, il lui dit, tu auras un enfant. Marie est allée voir Élisabeth, la personne qui avait reçu la même parole qu'elle. Et elle pouvait s'encourager. Parfois, on va demander conseil à des gens. Eh ben, ils nous enlèvent même le peu de foi qu'on avait, l'espérance qu'on avait. Eh ben, ils nous enlèvent même ça. Mais l'exhortation de ce soir, c'est pour nous dire, même si c'est arrivé, le Seigneur veut que nous puissions avoir confiance en lui. Saül parle. Est-ce qu'on peut, lorsque je méditais ça, je me suis dit, mais on ne peut pas accuser Saül, on ne peut pas le blâmer. C'est le bon sens ce qu'il dit. C'est logique. Parce que Saül était roi. Donc, envoyer David au front, c'était prendre la responsabilité de la vie de David. Donc, si David était tué, déjà Eliab qui était en colère, et en plus le père, les parents de David, eh ben, forcément, il aurait eu de comptes à rendre. Donc, lorsque Saül parle, il parle aussi en tant que père. C'est comme si c'était son propre fils. Il lui dit, mais réfléchis, comment tu peux t'aventurer dans une histoire comme ça ? Si nous-mêmes, les aînés, nous sommes là, on n'arrive pas. Ne pas se laisser influencer par les réalités visibles. Les réalités sont là. Mais nous, la parole de Dieu nous dit aussi qu'on a d'autres réalités. Hébreux 11, verset 1er. Ce sont des versets que nous connaissons, mais le Seigneur veut nous rappeler, à moi le premier. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et dans cette définition-là, la deuxième partie, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, moi, j'ai rajouté, non pas que j'ai rajouté à la Bible, mais dans ma pensée, je me dis, une démonstration des réalités qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Une démonstration des réalités qu'on ne voit pas. Je vois la réalité devant moi, mais au fond de moi, le Seigneur me dit, eh ben, ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Puisque moi, l'Éternel, je suis là. Lorsque je parle, les choses s'accomplissent. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu. Sinon, on ne le glorifierait pas. Sinon, on ne l'adorerait pas. On l'adore parce qu'il nous a sauvés. On l'adore parce qu'il nous aime. On l'adore parce qu'il est digne. Il est tout puissant. Il a fait ses preuves. Lorsqu'il parle, sa parole s'accomplit. Et là, la Bible nous dit que la foi, c'est une démonstration des réalités que nous ne voyons pas. Et lorsque nous lisons ce chapitre-là, on dit que Noé a cru en la promesse de Dieu, même s'il ne voyait pas. Noé, lorsqu'on lit ça, c'est facile. Mais Noé, est-ce qu'il connaissait la pluie? Il ne connaissait pas la pluie. Il ne savait pas ce que c'était la pluie. Lorsque Dieu lui parle du déluge, Noé ne connaissait pas cela. Mais par la foi, c'est comme si Dieu lui avait montré ce qui allait arriver. On nous parle d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va, tue-le. Abraham était dans l'incertitude. Mais même dans cette incertitude, il dit à son fils, mon fils, je ne sais pas. Parce que le fils lui dit, mais mon père, tu as tout pris pour le sacrifice. Mais l'animal est où, la bête? Il dit, ben, Dieu pourvoira. Dieu lui-même, il sait ce qu'il fera. Là, je pars, il y a une impasse devant moi, mais Dieu lui-même va ouvrir le chemin, c'est ça. Et on nous parle des héros de la foi. Et lorsqu'on lit, on dit même quelque part qu'ils ont salué les promesses, ils les ont vues de loin, c'est ça. Donc, ils ont vu ça comme une réalité. La réalité physique, c'était la souffrance pour beaucoup qui ont été frappés, maltraités, persécutés, mais il y avait une réalité qu'ils voyaient devant eux. C'était la délivrance, la victoire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est cela. Alors s'ils devaient se laisser influencer par tout ce qu'ils vivaient, ils auraient dit, mais Seigneur, mais tu nous as menti, mais nous avons tout abandonné. Seigneur, nous t'avons suivi, mais regarde maintenant tout ce qu'on vit à cause de toi. Il suffisait de renier ton nom et puis c'est fini. Mais non. Ils savaient qu'il y avait une réalité. La réalité, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, la question de notre exhortation ce soir, c'est quelle est ta réalité? Quelle est ta réalité? Est-ce qu'on t'a dit que toi, tel que tu es, le médecin t'a dit que bon, en fonction des examens qui ont été faits, eh ben, ça sera difficile de donner naissance? Est-ce qu'on t'a dit, comme je disais tout à l'heure, oh ben, c'est pas la peine d'inscrire ton enfant à la crèche parce qu'il y a 20 places d'attente. Toi, tu es 19e ou 20e sur la liste. Ah, ce concours-là, tu sais, il y a 300 personnes. Il y a 300 personnes. Le niveau est très, très, très haut. Les exigences sont grandes. Oui, que Dieu soit béni. Ça, c'est la réalité visible. Mais avec le Seigneur, il y a une réalité qui est invisible, qui est au-dessus. L'apôtre Paul dit, les choses visibles, elles sont pour un temps, elles sont passagères, elles sont là, elles durent et elles disparaissent. Mais les réalités spirituelles, la foi en Dieu, ce sont des choses qui sont éternelles. C'est cela. Alors la question, c'est quelle est ta réalité? J'aimerais servir le Seigneur, mais Seigneur, mais voilà, je n'arrive pas. Voilà tel handicap que j'ai, voilà telle difficulté que j'ai. Ce sont des réalités que tes yeux voient, que tes oreilles entendent, que ta bouche même parfois confesse. Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous laisser influencer par ce que nous voyons. Ne nous laissons pas influencer. David est venu, il a parlé à Goliath avec autorité. David est venu, il dit à Goliath. D'abord, lorsqu'il parle à Saül, c'est un point que j'ai oublié. Saül lui dit, mais tu es un enfant. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça la sagesse humaine, le bon sens. Mais, bien aimé, le bon sens ne va pas forcément avec la parole de Dieu. Les bons conseils, on peut te donner les bons conseils. C'est bon, humainement, c'est bon. Mais ce n'est pas parce que c'est bon humainement que c'est forcément ce que Dieu attend. On écoute le conseil, on dit, bon, ok, j'ai entendu, mais je veux prier. Il y a des gens, voilà, ton père, ta mère te disent, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi-même, tu sais que c'est faux, mais c'est comme ça, c'est comme ça. On te dit, eh ben, tu écoutes. Saül voyait les choses à la manière humaine. Mais David voyait les choses à la manière de Dieu. Ses yeux fixés sur le Seigneur. Ses yeux fixés sur Dieu. Saül, ses yeux étaient fixés sur qui? Sur Goliath. En guettant Goliath. Mais David, les yeux étaient fixés sur le Seigneur. Comme il est écrit dans Hébreux 12, verset 2. Les regards fixés sur le Seigneur, le consommateur de la foi. Les regards fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi. C'est ça que Dieu attend de nous. Et nous voyons bien la différence entre ces deux personnes. L'autre qui dit quelque chose de sensé, de correct, d'acceptable. Mais l'autre qui, lui, s'attend à Dieu, s'attend à la puissance de Dieu. C'est cela. Alors la question c'est, quelles sont nos réalités à nous? J'aimerais participer à la mission, l'œuvre de Dieu. Mes moyens ne me le permettent pas. Seigneur, je viens te dire, voilà le souci que j'ai dans mon cœur. Moi le premier. Mais bien souvent, nous sommes influencés. Et lorsqu'on est influencé par les réalités visibles, palpables, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, on est bloqué. On arrive à un point où on n'avance plus. Il y a quelque chose qui nous dit, Dieu veut que tu pries pour ça. Tu dis, ah non, 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 là, j'ai prié pour telle personne. Je lui ai parlé du Seigneur, la personne dont il m'a parlé. Il m'a même dit, oublie-moi, efface mon numéro de téléphone. Et il arrive un point où on est bloqué. C'est ce qu'on a lu. Israël, 40 jours, ils tournaient en rond. Ils avançaient, ils se motivaient. Allez, allons-y. Ils avancent, Goliath sort, ils disent, non, pas maintenant. Lorsqu'on a nos yeux fixés sur les réalités visibles, eh ben, on reste bloqué. On n'avance plus. On ne vit plus finalement parce que le Seigneur, lui, c'est la vie. Jésus lui-même dit, je suis la vie. On ne fait plus les projets. Je me rappelle une certaine époque, lorsque la première fois, je crois, qu'il y a eu une mission, je crois que c'était au Revest ou à Masseub, il y a un frère qui s'occupait des finances. Il dit, mais comment vous allez dépenser tout cet argent, faire la route, en plus, à l'époque, c'était la remorque, il n'y avait pas la camionnette. Il dit, mais vous allez faire tout ça. Et le serviteur de Dieu lui dit, oui, mais même si c'est pour une seule âme, on va faire la route. On va faire les kamikazes. Mais la personne dit, mais sont sérieux. Regardez la situation du compte. Le loyer n'est pas payé. En plus, là, en plus, on a pesé les instruments, tout dans la remorque. On était à presque 700 kilos. 700 kilos. Le bon sens te dit, mais tu ne vas pas t'aventurer, vous n'allez pas, mais vous êtes inconscient, mais vous n'êtes pas sérieux. Ça, c'est le bon sens. Mais lorsque le serviteur de Dieu a dit, mais même pour une seule âme, on va aller, cette parole-là, moi-même, ça m'encourage. Parce que moi, j'étais déstabilisé. Je me dis, bon, l'autre côté, ce que le frère a dit, c'est vrai. Et de l'autre côté, le Seigneur a dit, non, même pour une seule âme, ça vaut la peine. Certains parmi nous se rappellent peut-être lorsque, il y a peut-être 2, 3 ou 4 ans, à la fête de la musique, il y a eu un arrêté préfectoral de la mairie pour dire toutes les manifestations sont annulées. Après, ils changent, ils disent, bon, les manifestations, bon, restent plus ou moins tolérées, mais c'est à la responsabilité, à la charge de tout celui qui organise cela. Et là où on était, on voyait le ciel, il y avait des rafales, les sacs plastiques qu'on avait mis pour protéger les instruments partaient, il pleuvait, on regardait ça. Un moment, moi, dans mon cœur, je me dis, bon, Seigneur, là, qu'on abandonne seulement. Parce que là, les situations, la police même, pour bien enfoncer le clou, la police passe par là, et s'arrête. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'êtes pas au courant de ce qui a été décidé? Là, ça met le doute. Ça met le doute. Parce qu'il y avait une réalité. Le diable voyait la réalité que les enfants de Dieu allaient glorifier le nom de l'Éternel au Théâtre des Arts. Le nom de l'Éternel allait être proclamé. Peut-être pour délivrer, peut-être même une seule âme. Et nous, à notre niveau, à nous humains, bon, notre souci, moi mon souci, c'était le piano. Je me dis, ah Seigneur, le piano là, vraiment, on risque de le perdre alors qu'on peut juste le ranger et puis c'est tout. Mais finalement, Goliath a été vaincu. Amen. Goliath a été vaincu. Ceux qui avaient prévu peut-être de jouer à côté de nous, finalement, ils n'ont pas joué. Les gens qui avaient prévu d'aller écouter du rock, du je ne sais pas quoi, eh ben, ils sont venus écouter la parole de Dieu malgré eux. Voilà, c'était le plan de Dieu. Mais ça passait par l'acceptation de la volonté de Dieu. Ça passait par cela. Ne nous laissons pas influencer par les réalités visibles. Quelle est ta réalité à toi? Eh bien, le Seigneur nous dit qu'il est tout-puissant. Nous lisons Luc 11. Jean, chapitre 11. Jean 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondirent-ils. « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourît point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. C'est l'histoire de Lazare qui était mort. Et lorsque on vient annoncer au Seigneur, au maître, on dit, maître, Lazare, celui que tu aimes, on rajoute même celui que tu aimes pour vraiment que ça touche Jésus. Et malade, viens faire quelque chose. Jésus reste sur place. Lazare meurt. Et Jésus dit à ses disciples, Lazare n'est pas mort, il dort. Les disciples disent, bon, si il dort, donc c'est, on va juste le réveiller. Ils disent, non. Lazare est mort. Mais je vais le ressusciter. Le Seigneur rencontre Marthe, il rencontre Marie, triste. Elles disent, mais Seigneur, si tu avais été ici, les choses auraient été différentes. Mais Seigneur, si j'étais peut-être dans tel pays, si j'étais dans telle famille, Seigneur, si. Avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Dans le monde, ils disent, avec des si, on peut, je ne sais pas ce qu'ils disent après, on peut tout refaire quoi, avec des si. Si seulement j'avais telle taille, si j'avais la connaissance du pasteur, si, c'est faux. Tel que nous sommes, le Seigneur nous aime ainsi. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la foi en lui. Et voilà, la sœur qui dit, mais Seigneur, mais si tu avais été là, mais les choses auraient été différentes. Mais voilà que Lazare maintenant est mort. Jésus lui dit, mais est-ce que tu crois qu'il peut vivre? Oui, mais Seigneur. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et bien souvent, nous sommes dans des situations. J'ai pris cet exemple parce que c'est un exemple vraiment extrême. Ça, c'est la mort. Encore la maladie, on peut dire, bon, voilà. Mais là, c'est la mort. C'est une situation qui est irréversible. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, ben, c'est fini. C'est fini, on l'enterre, c'est fini. Il n'y a plus rien à attendre. Mais même devant la mort, le Seigneur a la victoire. Ce texte nous enseigne que les réalités visibles ne peuvent pas limiter Dieu. Les réalités visibles ne peuvent pas limiter la puissance de notre Dieu. Les réalités qu'on entend, qu'on voit, ne peuvent pas limiter cela. Et David, déjà à son époque, il avait compris. Lorsqu'il va pour se battre, Saül, le cœur déchiré, lui dit, bon, prends quand même mes affaires, mon armure, il prend ces choses-là. Il n'est pas à l'aise, il dit, non, laisse, prends tes affaires. Moi, je prends des pierres et je vais régler le compte de cet homme-là. Je vais régler son compte. Les réalités palpables ne peuvent pas limiter Dieu. Alors, si le Seigneur est allé ressusciter Lazare, et même quand il va, les gens lui disent, mais ça fait déjà 4 jours. Il sent déjà, donc c'est-à-dire que le processus de décomposition a commencé. Mais ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Je veux dire que ça, ce n'est pas un frein pour le Seigneur. La Bible dit qu'il appelle les choses à exister, comme si elles existaient déjà. Les choses sont là, mais c'est comme si elles avaient toujours existé, alors que c'est la puissance de Dieu qui a créé cela. C'est ça la puissance de Dieu. Et comme Marthe, comme Marie, il se peut que nous soyons dans une situation où on se dit, bon, c'est fini. Là, il n'y a plus qu'à faire le deuil, comme on dit en français. Il n'y a plus qu'à faire le deuil de la situation, accuser le coup et puis passer à autre chose. Si c'est le Seigneur qui t'a inspiré cela, que Dieu soit béni. Mais si cela n'est pas inspiré de Dieu, le Seigneur ne t'a pas interdit de prier, eh bien, tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à intercéder. Tu peux continuer à rappeler les promesses du Seigneur. Le Seigneur permet ces situations-là pour qu'on se tourne vers lui. C'est cela. Les réalités visibles ne peuvent pas limiter la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Voilà que David, avec quelques pierres, il a réglé le compte de ce géant Goliath. Peut-être qu'humainement, ils avaient un programme, on va faire ceci, on va faire cela. Mais voilà que tout ce programme est tombé à l'eau en quelques instants. La foi de David, la confiance que David avait en Dieu, eh ben, a réussi à vaincre Goliath, mais surtout à glorifier le nom de Dieu, à manifester la gloire de Dieu. C'est cela. Alors, quelles que soient les situations qui sont devant nous, regardons la puissance de Dieu. Rien ne peut limiter sa puissance. Nous lisons rapidement Luc au chapitre 5. Luc 5, à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. On peut s'arrêter là. Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur entre dans la barque avec Pierre. Il enseigne et une fois qu'il a fini, il dit, « Pierre, allons. » Et Pierre dit au Seigneur, il dit, « Maître, mais nous avons travaillé toute la nuit. » Lorsque Pierre parle comme ça, Pierre savait de quoi il parlait. Pierre était pêcheur, c'était son métier. Donc, il connaissait toutes les périodes qui sont propices à une bonne pêche. Il connaissait ça humainement. Donc, quand il parle au Seigneur, il parle en tant que connaisseur. Mais il dit, mais nous avons travaillé toute la nuit. On a dit, ne pas se laisser influencer par les réalités visibles. Donc, la réalité, c'était quoi? Le fait, c'était quoi? La situation, le constat, c'est que on a travaillé minuit. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, jusqu'à l'aube, rien du tout. C'est ça la réalité. Et là maintenant, il ne restait plus qu'à plier bagages, à reprendre les choses et retourner chacun chez soi, la tête baissée. Et le Seigneur vient, il dit, Pierre, vas-y. Il dit, mais maître, mais nous avons fait ce qu'on devait faire. En quelque sorte, mes maîtres, mais tu me parles, mais tu ne sais pas comment est la situation. Moi, je viens de là. Mais est-ce que lorsque le Seigneur dit à Pierre, on y va, est-ce que le Seigneur n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Est-ce que le Seigneur n'est pas au courant? Le Seigneur est au courant. Le Seigneur est au courant. Mais il avait un objectif à ce moment-là. C'était montrer à Pierre que par toi-même, même si tu connais les choses, même si tu es professionnel, eh ben, tu n'y arriveras pas. Parce qu'il suffit que moi je décide, je dise, niet, c'est niet. Tu auras beau dire, mais je connais le cousin du maire, je connais le voisin du voisin, de la voisine, du préfet. Tu auras beau frapper, même si c'est ton cousin, lorsque Dieu a dit, c'est non, ça sera non. Ça sera non. Mais lorsque Dieu a dit, c'est oui, eh bien, ça sera oui. Même si le ministre de l'Intérieur a signé l'arrêté de reconduite à la frontière, je connais une histoire comme ça, un bien-aimé. Arrêté, signé, en plus à l'époque, c'était qui le ministre de l'Intérieur? Nicolas Sarkozy. Signé de la main, voilà, quitter le territoire. Bon, nous, on a prié. Mais pendant qu'on prie, là, on se dit, mais qui sommes-nous? Mais c'est la folie. Toi, là, à Rouen, en Normandie. Tu vas prier, mais lorsque nous-mêmes on priait, on dit, bon, Seigneur, Seigneur. Le bien-aimé a écrit un courrier, cabinet du ministère, allez vous présenter à la préfecture. Avec tel document, telle photocopie. Ah, le bien-aimé se dit, ah là, c'est à double tranchant, c'est peut-être un piège. Ou alors, c'est la main de Dieu. Oui, non, Dieu est tout-puissant. Même si c'est un piège, tout va tourner à la gloire de Dieu. Dieu va faire la sauce, il va tout arranger pour que d'une manière ou d'une autre, ça tourne à sa gloire. Le bien-aimé est arrivé avec le photocopie. Voilà, il a eu son document. Pour moi, cette histoire-là, je me suis dit, mais c'est grave. Donc Dieu, à cette époque-là, pour ceux qui connaissent un petit peu la politique, Sarkozy était vraiment virulent. Donc celui-même qui signe les arrêtés de reconduite, c'est celui-même par son cabinet qui dit, on a étudié votre dossier. Après, est-ce qu'il a lu la situation? On ne sait pas, mais Dieu est tout-puissant. On se rappelle de cette femme dans Luc 18 qui a eu affaire au juge unique, qui l'a renvoyé, mais un jour, il a fini par lire. Peut-être qu'il s'ennuyait et s'est dit, bon, je vais lire. C'est quoi ce courrier-là? Qui c'est qui m'embête comme ça? Il a dit, bon, je veux m'occuper de cette situation-là. Voilà que quelques petits chrétiens en Normandie qui prient. Après, on peut dire tout ce qu'on veut, mais non, mais ceci. Mais nous voyons que c'est la puissance de Dieu. Lorsque Dieu a décidé, eh bien, Dieu agit. La main même qui a décidé, le pharaon qui a décidé de tuer les enfants mâles, c'est lui-même qui sera obligé de changer la couche de Moïse dans sa maison. Dans sa maison, c'est lui-même qui décide de tuer, mais Dieu le confond. Alors ce texte est là pour nous dire quoi? Pour nous dire, quelle que soit la réalité, ayons foi en la parole de Dieu. Ayons foi en la parole de Dieu. Peut-être que nous sommes allés chercher conseil auprès des aînés. Gloire à Dieu, c'est bien. Les aînés nous ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mais la question que je nous pose aujourd'hui, est-ce que avons-nous posé la question à Dieu? Avons-nous posé la question à Dieu? S'il fallait se fier aux aînés, bah, David ne serait pas parti se battre. David ne serait pas parti se battre. Alors, quelle que soit la situation, ayons foi en la parole. Je vais prendre quelques exemples de personnes rapidement. L'histoire de Gédéon. Gédéon, lorsque Dieu lui dit, bon, Gédéon se lamente, il pleure, il dit, mais Seigneur, mais les prodiges que nous ont racontés, ceux qui nous ont précédés, mais où sont-ils? Mais Seigneur, regarde comment nous sommes esclaves, nous sommes persécutés, mais Seigneur. Dieu dit à Gédéon, c'est toi que j'ai choisi, vaillant héros. Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Quelqu'un d'autre, mais pas moi. Regarde ma situation. Dans la famille. Regarde la situation. Dans la communauté, dans la tribu. Regarde comment nous sommes. Nous sommes tellement insignifiants. Mais Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu es le vaillant héros que j'ai choisi. Ne pas se laisser influencer par les réalités visibles. Parfois, par fausse modestie, on a capitulé, on a abandonné certains combats par fausse modestie ou alors par manque de foi. On dit non, moi je suis trop petit. Ça c'est pas pour moi. Ah bon, c'est pas pour toi de prier, de t'enfermer dans ta chambre de prier pour le salut d'une personne. On dit non, là il y a cette situation, j'appelle, je prends le téléphone, j'appelle le pasteur, non. On peut prier, Dieu nous écoute. Voilà, Gédéon se dit, mais non, mais Seigneur, mais je suis petit. La mission que tu me donnes est trop grande. Je ne suis même pas instruit. Peut-être que si j'étais dans une famille grande, respectable, les gens m'écouteraient. Mais Seigneur, regarde. Mais Dieu lui dit, non, c'est toi mon choix. Moïse, Dieu lui dit, Moïse, va, tu vas libérer le peuple. Il dit, ah bon? Ah, pas moi. Regarde comment je suis, je ne sais pas parler. En plus, tu m'envoies les mains vides. Parler à une multitude de cette foule-là, dire « Dieu va vous libérer », mais c'est la folie. Est-ce que les gens vont m'écouter? Les réalités visibles. Jérémie, Dieu lui parle, il dit « Non, Seigneur, je suis petit. Dieu dit à Jérémie, il dit attention. Sache que moi, j'avais déjà fait mon plan. Avant même que tu sois dans le sein maternel, moi, je te connaissais. Mais non seulement je te connaissais, mais j'avais déjà une mission. Alors, dans tous ces cas-là que nous avons cités, on peut citer Joseph, on peut citer... Dans tous les cas qu'on a cités, il y a une chose qui est commune, d'eux-mêmes. La première chose, c'est que Dieu lui-même s'est engagé, il a dit « Je serai avec toi ». La deuxième chose, c'est que ils se sont adressés à qui ? Je nous pose la question. Devant la réalité qu'ils ont vue, à qui ils se sont plaints ? À qui ont-ils parlé ? Je nous pose la question. Ils ont parlé à qui ? Gédéon, lorsqu'il se plaignait, il parlait à qui ? Moïse, lorsqu'il dit « Je ne sais pas parler », il parlait à qui ? À Aaron ? Il parlait à qui ? Jérémie, lorsqu'il dit « Mais je suis petit », il parlait à qui ? C'est pour nous dire, devant les réalités qui sont devant nous, parlons à Dieu. Disons à Dieu, « Seigneur, la réalité qui est devant moi, c'est qu'on m'a donné un ultimatum. La réalité qui est devant moi, c'est que j'aimerais tel ou tel logement, mais je suis réaliste. Et étant réaliste, pour avoir un bon dossier, il faut une fiche de paye, il faut une caution, il faut un garant, il faut ceci, il faut cela, il faut peut-être même un antécédent. Ils vont fouiller parfois dans les antécédents, dans les compagnies où tu as été. Dans les, c'est ça la réalité. Mais ça, c'est la réalité humaine. Et parfois, on se décourage même avant, on dit « Ah, le dossier est incomplet, c'est même pas la peine. » C'est même pas la peine et on se bloque comme ça. On se bloque comme ça. Mais notre Dieu est tout-puissant. Même si le dossier est incomplet, il y a juste 2 photocopies sur 15 qu'on t'a demandé. Dieu peut toucher le cœur de celui qui s'occupe du dossier. Là, il dit « Bon, ok, bon, on va lui accorder. » Voilà. C'est ça. Alors, devant nos réalités, à qui nous adressons-nous ? Est-ce qu'on s'adresse à un ami ? Mais l'ami, lui, voit les choses aussi de manière humaine. S'il nous conseille selon la volonté de Dieu, que Dieu soit béni. Mais parfois, ça arrive, on te dit, mais non, mais sois réaliste. Tu sais, moi, je connais. Hein. Je connais la législation française. Je connais ce secteur d'activité, je connais très bien. Alors quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça, lui-même, il est dans le domaine, ben, c'est fini. Et tu dis, bon, là, c'est même pas la peine. Mais tous ces gens-là qu'on a cités, devant la réalité qui était insurmontable, ils ont parlé à Dieu et dire, Seigneur, ma réalité à moi, c'est que je n'arrive pas à pardonner. Le pardon est tellement grand. Pour moi, je n'arrive pas. Seigneur, c'est ça la réalité que je vois. Dans mon cœur, je n'arrive pas. Mes pensées me disent, mais voilà, toi un chrétien, tu ne pardonnes même pas, tu es un faux chrétien. Mes pensées m'accusent. Seigneur, je reconnais cela. Mais je sais aussi que tu es tout puissant pour transformer mon cœur. Je sais aussi que tu es tout puissant pour transformer mon cœur. Seigneur, la réalité est là. La liste d'attente pour le concours est tellement grande. Moi-même, à l'école, j'étais toujours moyen. Je ne comprends pas tout. Mais Seigneur, regarde mes difficultés. Regarde les lacunes que j'ai. Alors, si c'est ta volonté, que ton nom soit glorifié. Amen. Disons nos réalités à Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Moi, le premier, il se peut que nous ayons douté devant des situations qui était tellement grande comme Goliath. Mais le Seigneur nous dit, comme David a dit, que la victoire ne se trouve pas dans les armes humaines, dans la lance, dans le bouclier, dans le javelot, dans toutes ces choses. La victoire se trouve dans le nom de l'Éternel. C'est cela. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci de nous avoir parlé, de m'avoir parlé, Seigneur, à moi le premier, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu veux que nous puissions faire confiance, Seigneur, à ta grandeur, à ta puissance. Devant les réalités qui sont là, notre intelligence qui nous dit, mais non, sois réaliste, sois sérieux, sois sage. Mais Seigneur, il est écrit que la sagesse des hommes, devant toi, c'est une folie, Seigneur. Le bon sens humain devant toi, c'est une folie. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, pour que toutes les réalités qui sont comme des obstacles devant nous, qu'on a pensé longtemps insurmontables, Seigneur, nous prions pour que tu agisses, Seigneur, que nous puissions avoir la foi comme David, que nous puissions, Seigneur, nous rappeler, David s'est souvenu de la victoire que tu as donnée face à l'ours, face au lion, Seigneur. David n'a pas fait des cours théoriques, mais David connaissait au fond de lui que toi, l'Éternel, tu es Dieu. Et la victoire t'appartient. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aussi. Tu vois les réalités qui sont devant nous. Parfois, Seigneur, nous n'osons même pas faire des projets. Parce que le bon sens nous dit, mais comment tu veux faire des projets? Regarde ta situation. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que nous puissions considérer, comme l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 18, que nous nous attachons aux réalités, aux choses invisibles. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous donne la foi. Seigneur, merci, Seigneur, là où nous pensions que la situation était terminée, comme ça a été le cas pour Marie, pour Marthe, tu nous rappelles, Seigneur, que nos réalités à nous, Seigneur, ne peuvent pas te limiter. Seigneur, si tu as pu ressusciter Lazare avec une seule parole, Seigneur, si tu as pu, Seigneur Jésus, donner l'ordre, Seigneur, à Pierre d'aller pêcher. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es tout-puissant pour agir. Nous nous souvenons de l'histoire de Jaïrus, qui a été rattrapé par ses amis pour lui dire « Arrête d'embêter le maître. Ta fille est morte, c'est fini. » Seigneur, tu as dit à Jaïrus, « Ne crains pas, crois seulement. » Seigneur, merci pour cette parole que tu nous rappelles aujourd'hui. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons cherché, Seigneur, le secours à gauche, à droite. Seigneur, non pas que tu ne veuilles pas que nous cherchions secours, mais Seigneur, tu veux surtout que nous puissions chercher secours auprès de toi, comme ça a été le cas pour Gédéon, qui t'a dit sa réalité, qui t'a dit ses faiblesses, comme ça a été le cas pour Moïse, qui t'a parlé à toi, qui t'a dit sa faiblesse, sa difficulté, la réalité, comme ça a été le cas pour Jérémie et bien d'autres encore. Seigneur, nous voulons te dire cela, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis au travers de ta parole. Là où il y avait le désespoir, Seigneur, au travers de ta parole, tu remets l'espoir. Là où il y avait le doute, Seigneur, ta parole, Seigneur, produit la foi. Là où il y avait la peur, la crainte, ta parole vient nous rassurer, Seigneur. Là où il y avait des questions, Seigneur, ta parole nous dit que tout est possible à celui qui croit. Ta parole nous dit dans Éphésiens 3:20 que tu agis, même au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce temps. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.